Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les vacances d'hiver se profilent dans quelques jours, période où l'on constate souvent une certaine relâche dans les salles de spectacle. Ce n'est pas tout à fait vrai à Toulouse, même si la semaine à venir est assez prodigue en concert. Il y a cependant quelques événements musicaux à vous annoncer et d'autres ayant déjà eu lieu sur lesquels nous allons revenir. Je vais m'atteler à cette tâche en compagnie du toujours fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge et moi accueillons un invité d'honneur aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un musicien, puisqu'il s'agit du scénographe et metteur en scène toulousain Aurélien Bory, fondateur et directeur artistique de la compagnie 111 et concepteur de la scénographie et de la mise en scène de Daphné, une nouvelle production dont la musique est signée Wolfgang Mitterer, inspirée de compositions du compositeur baroque allemand Heinrich Schütz, à découvrir au Théâtre Garonne du 15 au 17 février. Nous allons vous présenter ce spectacle musical en seconde partie d'émission en compagnie d'Aurélien Bory. Dans un premier temps, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente avec Serge. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Jeudi dernier à la Halle au Grain, l'Orchestre National du Capitole était une nouvelle fois en concert pour une soirée au programme très original que nous avions annoncé la semaine passée. Il y avait un chef et un soliste invité. On connaissait le premier, mais on a découvert le second, Serge.
Oui, exactement. Alors le premier est un chef qui finalement dirigeait l'orchestre pour la troisième fois. Et ce chef, il vient de Hong Kong et il s'appelle Wilson Ng. J'ai essayé de prononcer au mieux, mais c'est la prononciation qu'il utilise lui-même quand il parle de lui. Et puis, il a donné une interview dont la vidéo est disponible sur Internet. Donc voilà, Wilson Ng était accompagné en quelque sorte, ou il accompagnait également, un jeune violoniste né à Paris, lui, bien que d'origine italienne, qui s'appelle Luca Faulisi. Donc on avait deux jeunes, vraiment deux jeunes musiciens.
Oui, le violoniste a 21 ans. Hein.
Oui, tout jeune.
Wilson Ng, alors ça s'écrit NG, je précise.
NG, oui.
Voilà, deux consonnes, NG. Lui, il a quoi, il y a une trentaine d'années, à peine.
Oui,
à peine,
oui, tout juste, doute. Oui, à peu près, oui. Donc ce chef était le chef associé de l'Orchestre Philharmonique de Séoul et en même temps il est directeur artistique de l'Orchestre Gustav Mahler de Hong Kong. Donc, il a des occupations déjà à son jeune âge, hein, malgré son jeune âge. Donc, il a été révélé, il faut le signaler quand même, lors du prestigieux concours Svetlanov en 2018 qu'il avait remporté. Et c'est un chef très énergique, très vivifiant à la tête de l'orchestre et qui dirige de manière, on pourrait dire, presque un peu chorégraphique, en quelque sorte, sur son podium. Donc, la première œuvre au programme est une orchestration de Maurice Ravel d'une œuvre de Claude Debussy. Alors on sait qu'il n'y avait pas des relations excellentes entre Ravel et Debussy, surtout Debussy n'aimait pas Ravel.
Oui, l'inverse n'était pas vrai.
Alors que Ravel aimait beaucoup Debussy.
Puisque Ravel orchestrait la musique de Debussy.
Oui. Et donc cette œuvre-là, c'était une œuvre originellement écrite pour piano et qui était intitulée initialement Tarentelle styrienne et qu'ensuite Claude Debussy a intitulée Danse, tout simplement. Donc c'est une version orchestrale, je dirais un peu pointilliste, très belle, hein, magnifiquement orchestrée, évidemment, on connaît les talents de Ravel dans ce domaine, et donc avec des dialogues entre vent et cordes que le chef a bien souligné, avec une intensité, même une vigueur, qui n'est pas très courante dans ce type de musique, mais un très beau moment, très court, hein, ça fait même pas un petit quart d'heure, et cela introduisait l'œuvre suivante, qui était l'œuvre concertante, et qui est une œuvre d'Ernest Chausson, une œuvre relativement célèbre, mais assez peu jouée, donc qui s'appelle « Poème pour violon et orchestre ». Alors Ernest Chausson, il s'est inspiré d'une nouvelle d'Ivan Tourguenieff, Le chant de l'amour triomphant, dans laquelle un violon réalise une espèce d'envoûtement. Donc on voit pourquoi il s'est inspiré de cette nouvelle par l'intermédiaire d'un concerto pour violon. Parce qu'il s'agit vraiment d'un concerto, hein, trois mouvements bien sûr enchaînés, hein, donc il n'y a pas d'interruption entre les trois mouvements. Et là, on a pu observer dès les premières mesures, puisque ces premières mesures, c'est le violon a cappella, sans orchestre. Et là, on a pu admirer la sonorité vraiment très belle de ce jeune violoniste, une belle profondeur, une rondeur, une richesse harmonique magnifique. On comprend un peu la boutade du grand violoniste Pinchas Tuchman, qui, à propos de lui, a parlé d'une sonorité $1 million. Alors, je ne vois pas vraiment ce que l'argent a à faire avec ça. Mais
c'est bon. Peut-être le violon qu'il utilise qui vaut $1 million, j'en sais
rien. Peut-être, mais c'est la sonorité qu'il a qualifiée, hein, donc $1 million. Et là, cette espèce de dialogue avec l'orchestre a été très très beau, très bien fait, avec notamment une poésie, un sens de la couleur, vraiment qui caractérise l'interprétation du soliste. Parfois, l'ampleur orchestrale a été un peu trop sonore, mais ça arrive hélas souvent avec les concertos pour violon, mais c'était jamais rédhibitoire évidemment, donc un très beau moment, avec une expression nostalgique tout à fait adaptée à l'œuvre. Ernest Chausson était un grand compositeur, hein. C'est vraiment
trop
dommage
disparu, oui.
Qu'on n'entend pas disparu
dans, très bête, oui.
Dans des conditions incroyables, un accident de vélo.
Dans son jardin, oui.
Oui, dans son propre jardin, ce qui est incroyable. Alors, il a été très applaudi, ce jeune violoniste, et donc, à l'issue de sa prestation, il a offert généreusement 2 bis, avec le premier très classique, qui est l'adage de la première sonate pour violon seul de Johann Sebastian Bach. Ça, on l'entend souvent comme bis,
oui,
cette œuvre.
Oui.
Mais il a osé ensuite une version pour violon de l'emblématique pièce pour flûte seule, Syrinx, de Claude Debussy, rejoignant en cela la première œuvre inscrite au programme. Alors, Syrinx, on le connaît, c'est une œuvre pour flûte seule. Et jouer au violon, moi, c'est la première fois que je l'entendais, effectivement. Alors, du coup, je me suis permis d'aller le trouver pour lui demander de qui était la transcription. Et il m'a dit, mais il n'y a aucune transcription. J'ai simplement joué les notes
de la flûte.
De la flûte, c'est dans la même tonalité, je n'ai rien changé. Donc, ça n'est pas une transcription, c'est simplement un changement d'instrument. Et il a joué ça avec beaucoup de poésie, beaucoup de finesse.
Oui, alors cette première partie, ces 2/3 de concert,
voilà, oui,
était
oui.
Quand même largement dédiée à Claude Debussy, finalement,
et
puisque
oui.
Il y a eu sa tarentelle styrienne, cette danse, il y a eu le Syrinx, et puis il faut préciser que le poème de Chausson, pour violon, est certes inspiré d'une nouvelle de Tourguenieff, mais qu'il était très admiré de Debussy.
Ah oui, absolument, oui, oui, oui. Oui. Ah oui, toute cette première partie, effectivement, sur
la
cette première partie,
française
plane un peu.
De la fin du 19e était très voilà. Sur le devant de la scène, et on va écouter eh bien, cette danse tarentaise styrienne de Claude Debussy, pièce écrite pour piano à l'origine, orchestrée par Maurice Ravel. Elle est magnifique, alors je vous propose de la réécouter pour le premier extrait musical de cette émission. Thank you. La danse tarentelle styrienne de Claude Debussy, orchestrée par Maurice Ravel. Et il y avait donc une troisième œuvre au programme de cette soirée à la Lohengrin, la première symphonie d'Edouard Elgar, qu'on n'entend pas si souvent que ça en concert. Non. Et pourtant, elle a été donnée en 2014. C'était déjà à la Lohengrin par l'Orchestre National du Capitole. Vous avez retrouvé ça dans vos archives, Serge. Moi, personnellement, j'avais oublié ce concert.
Dirigé par Tugan Sokeaf, d'ailleurs.
Alors, comment l'a dirigé Wilson Nye?
Eh bien, avec beaucoup d'implication, en quelque sorte, d'engagement, puisque cette œuvre est finalement peu connue. C'est la première de trois symphonies, la troisième n'ayant pas été achevée d'ailleurs, de Elgar. On connaît davantage de lui les fameuses Pomp and Circumstance et puis les variations Enigma qui ont été souvent jouées par l'Orchestre du Capitole, notamment dirigée par Tugan Sokeaf, qui aime beaucoup Edouard Elgar d'ailleurs. Alors c'est une œuvre en quatre mouvements, les deux mouvements centraux s'enchaînent d'ailleurs, et c'est un double caractère un peu. C'est à la fois serein et majestueux, et puis tourmenté. Et finalement, le chef a bien souligné cette dualité entre ces deux caractères, et il l'a souligné ça avec vigueur, avec un début andante d'abord, qui s'appelle d'ailleurs Nobilmente et Semplice. Là, on retrouve un peu la marche initiale de Pomp and Circumstance, dans cette andante qui est une marche, en quelque sorte. Et il est suivi donc d'une série de contrastes un peu tumultueux que le chef souligne magnifiquement. Et donc, le deuxième volet est plus animé, vif, léger, effervescent même, et il s'enchaîne sans interruption avec un adagio qui est à la fois calme et rêveur, et c'est ainsi que l'a dirigé le chef. Donc. Et avec un final d'abord mystérieux, inquiétant, et puis qui s'anime et qui finit, qui s'achève sur une section à la fois tumultueuse et martiale, avec la prédominance d'un rythme, alors étrangement un peu brahmsien en quelque sorte, et puis on assiste au retour triomphal du thème, ce qu'il a très bien mené, donc ce jeune chef, et qui a été chaleureusement applaudi par un public. J'ai constaté que le public était composé en grande partie de non-habitués, puisque les applaudissements se manifestaient entre les mouvements des œuvres, ce qui est rare. Donc il y avait des nouveaux venus, ce qui est une belle chose. Donc.
Tant mieux. Oui, après. Les gens, les codes, ils vont les acquérir. On n'applaudit pas entre les mouvements.
Oui.
Alors, actuellement. Je crois que ça se faisait au XVIIIe siècle.
Exactement. Mais même à l'époque de Beethoven, on signale des concerts entre deux mouvements de la cinquième, par exemple. Eh bien, il y avait une cantatrice qui arrivait, qui chantait un air d'opéra et qui se faisait applaudir, évidemment. Et donc, Mozart raconte que quelquefois les applaudissements l'obligeaient à abisser un morceau de mouvement parce que ce morceau avait plu au public. Enfin, bon, les habitudes changent.
Évidemment, œuvre composée par Elgar, cette première symphonie, à l'âge de 50 ans, donc tardivement.
Oui, exactement.
Saluée d'emblée par la critique, elle est considérée encore aujourd'hui comme une des plus belles symphonies composées au XXe siècle.
Oui.
Je crois même que, je ne sais plus, c'est un critique qui l'avait appelé, c'était en quelque sorte...
C'est Nikisch, qui l'avait appelé la cinquième symphonie de Brahms.
Vous parliez de Brahms, ça, tout à l'heure.
Oui, exactement.
Voilà, très beau moment, très beau concert, donc jeudi dernier, qui s'est terminé par l'exécution de cette première symphonie d'Edouard Elgar, dirigée par Wilson Nye. Et pour vous la faire découvrir, en tout cas la faire découvrir à ceux qui ne la connaîtraient pas encore, je propose d'écouter un extrait de cette symphonie numéro 1 d'Elgar, le tout début du premier mouvement, Andante nobilmente et semplice. premier mouvement Andante, Nobilmente, Semplice, oui, noblesse, simplicité, solennité pourrait-on dire, de cette première symphonie d'Edouard Elgar. Pour terminer ce retour sur le concert de l'Orchestre National du Capitole du 9 février, et lors de notre précédente émission, si vous l'avez écouté, nous avions reçu le percussionniste José Filatro pour présenter le concert qu'il donnait avec ses deux camarades du trio Trilogistique à Saint-Pierre-des-Cuisines lundi 13 février, une soirée proposée par les Clés de Saint-Pierre. C'était là encore un concert qui sortait des sentiers battus, un trio de percussionnistes, on ne voit pas ça tous les jours sur la scène classique. Nous y étions tous les deux, Serge, et nous n'avons pas été déçus parce que nous avons entendu, loin s'en faut, devant une salle bien remplie par un public enthousiaste.
Absolument, un public enthousiaste dans lequel il y avait probablement de jeunes musiciens, puisque au cours de ce concert, Christophe Devarumès a, comment dire, mis à l'épreuve la salle pour essayer de lui faire chanter ou tout au moins rythmer certaines partitions. Avec un peu de mal quand même vis-à-vis du public.
Il fallait mémoriser ce qu'il nous demandait.
Oui, c'était très difficile. Et donc, il faut d'abord souligner que la présentation de Christophe Devarumès a été appréciée par le public. Une présentation d'un humour incroyable. Très bien. Donc, ces trois compagnons, il faut les citer. Donc, Christophe Devarumès, il fait partie des percussions de l'Orchestre National du Capitole, ainsi que Thibaut Buchaillet, d'ailleurs, ainsi que de temps en temps par José Filatro qui vient souvent en supplémentaire dans ce pupitre de percussion qui est un pupitre, alors il faut le signaler quand même, à chaque concert, c'est probablement le pupitre le plus applaudi,
oui.
Ce qui est incroyable.
C'est ceux qu'on voit le mieux puisqu'ils sont au fond et surélevés.
Et puis,
ils ont toujours autour d'eux tout un instrumentarium impressionnant qui fait qu'on les repère et qu'on les aime beaucoup parce qu'en plus ils sont très bons.
Ah, ils sont excellents. Et puis quand on est entré dans la salle, ce qui était impressionnant, c'était la multiplication des objets de percussion qui étaient des instruments. Alors quelquefois des instruments qu'on n'imagine pas. Il y avait un marteau à un moment.
Il y a un amortisseur de poids lourd aussi.
Oui, exactement. Il y a toutes sortes d'objets particuliers, bizarres.
Mais c'est toujours un peu un cabinet de curiosité, les percussions, parce qu'il y a tellement de choses, puis des choses, parfois on se demande exactement à quoi ça peut servir.
Oui.
Et je crois que les musiciens, les percussionnistes, le pupitre de percussionniste de l'Orchestre National du Capitole a une pièce qui lui est réservée à la Lohengrin.
Oui,
et il paraît que c'est vraiment la caverne d'Ali Baba.
Oui, absolument. Donc, très intéressant. Alors, les musiciens sont arrivés l'un après l'autre et ils ont d'abord réalisé une improvisation, chacun son improvisation, pour ensuite enchaîner sur la première œuvre au programme, qui était une œuvre de Christophe Devarumès, justement, qui s'appelle Hermanniené. Alors, ces titres des œuvres de Devarumès sont un peu sibyllins et sont vraisemblablement des anagrammes. Alors, il faut essayer de détecter.
Il y en a certains qu'on arrive à peu près à décrypter, d'autres, c'est plus compliqué.
Hermanniené, alors ça pourrait être Marie-Hélène, pourquoi pas. Et il y a une autre pièce qui s'appelle Athélina et qui pourrait être Nathalie, éventuellement.
Alors, celle-ci, d'après ce qu'il nous a dit, est dédiée à sa fille.
À sa fille, voilà, exactement. Et donc, il y a également une autre œuvre, alors qui s'appelle Amangade. Alors là, je ne sais pas du tout
quel peut être
l'anagramme. C'était peut-être l'œuvre la plus développée, d'ailleurs. Une œuvre dans laquelle il évoquait la danse et c'était accompagné d'effets de lumière et même d'effets audio puisqu'il y avait certains enregistrements, la voix qui transparaissait. Donc c'était vraiment des œuvres extrêmement riches. Il y avait donc quatre œuvres de Christophe Devarumès et deux œuvres de José Filatro. Avec une espèce de dynamique entre eux, on a l'impression qu'ils se stimulaient l'un l'autre. Et donc, c'était vraiment impressionnant, avec des moments, des crescendo et puis des décrescendo, avec pas simplement une apothéose de rythme, mais en même temps de couleur. Puisque le choix de ces instruments dont on a parlé était tout à fait improbable. Et donc, on avait l'impression vraiment de découvrir de nouvelles couleurs avec donc cette succession de pièces, à la fois dynamique, parfois obsessionnelle, quelquefois inquiétante, avec, pour terminer, une suite. Alors, une suite avec six mouvements dans cette suite qui évoquent la danse. mais la danse de salon, en quelque sorte.
Alors, pas seulement, parce qu'il y en a une qui s'appelle techno.
Oui, il y a techno. La première et la dernière, la première c'est rhythm and blues,
oui.
Et la dernière c'est tango, mais entre les deux, il y a valse, slow, marche, tango, et on reconnaît effectivement les rythmes qui sont émis par ces trois complices, en quelque sorte. Alors, pour ma part, moi, ce qui m'a ahuri complètement, c'est qu'ils jouent tout ça sans partition. Et qu'ils ont donc, comme le disait Christophe de Varumès, ils ont tout dans la tête. Mais comment est-ce possible? Parce que c'est très complexe.
Ah oui, oui.
C'est une multiplication de rythmes très, très élaborés. Et bon, sans partition.
Ah oui, et puis ils m'ont bien précisé que moi, je pensais que parfois ils tournaient un peu autour. Oui, il y a oui, un oui, peu oui, d'improvisation oui. autour oui, oui. D'un thème. Et non, ils me disent c'est quand même très précis.
Ah oui, oui,
pas
oui.
vraiment s'écarter.
Oui, oui, oui. Donc c'était vraiment... très étonnant et un beau moment, enchaîné, il n'y a pas eu d'entracte, et c'était très bien comme ça, et qui a été ovationné par le public, au point qu'ils ont joué un bis d'ailleurs. Alors un bis qui est signé d'Anthony Lafargue, et il l'a présenté, donc Christophe de Varumès, comme l'un des membres du Quatuor, puisqu'au début ils étaient quatre.
Un des membres fondateurs, ils étaient quatre.
Ils étaient quatre au début, et donc... c'était vraiment un beau moment qui a été accompagné donc de ce cours de rythme, de cette tentative de cours de rythme donnée au public à l'occasion de ce bis.
Oui, je l'ai dit, c'était vraiment une soirée qui sortait des sentiers battus
ah oui,
à tout point de vue, que ce soit pour la thématique, donc un trio de
oui.
percussionnistes,
oui.
les musiques qu'on a pu entendre, et puis voilà, cette relation au public, on s'écartait quand même de ce que peut être l'ambiance d'un concert de musique
oui.
dite classique.
Classique oui,
et
oui.
ça, c'est les Clés de Saint-Pierre qui nous l'ont offert.
Oui,
on
exactement.
Les remercie au passage parce qu'ils font toujours des propositions très originales, ils prennent des risques et c'est très bien. Voici une des œuvres jouées lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines par le trio Trilogistique, une composition de José Filatro intitulée « Three Around One ». Around One, composition de José Filatro, interprétée par le groupe Trilogistique. Elle était au programme du concert des Clés de Saint-Pierre lundi. Le prochain et dernier de la saison est prévu le 3 avril à 20h et vous pourrez entendre l'octuor de Franz Schubert. Fin de cette première partie d'émission, petite virgule musicale, avant de se retrouver en compagnie de Serge Chosy et de notre invité d'honneur Aurélien Bory. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
La suite de Mélomanie avec Serge Chosy et Aurélien Bory, avec qui nous allons parler de Daphné, l'opéra, parce que c'est un opéra, qu'il met en scène au Théâtre Garonne du 15 au 17 février. Trois représentations pour cette nouvelle production créée à l'automne dernier à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris. Aurélien Bory va nous la présenter dans quelques minutes. Auparavant, toujours avec Serge, nous devons annoncer l'autre grand événement de la semaine, le concert de l'Orchestre de Chambre de Lausanne à la Halle aux Grains, vendredi 17 à 20h, à l'invitation de la saison des grands interprètes. Et cette formation prestigieuse vient avec son directeur artistique, un certain Renaud Capuçon. Serge.
Et oui, Renaud Capuçon a décidément une activité débordante. Sur France Musique, quelqu'un a même dit récemment « Je me demande quand est-ce qu'il dort ». Donc c'est vraiment un grand musicien et un musicien très actif. Alors, il faut quand même rappeler que l'Orchestre de Chambre de Lausanne a été fondé en 1942 par un certain Victor de Zarzens, et puis qu'il a été suivi à la direction de cet orchestre par des gens comme Armin Jordan, Laurence Foster, Jesús López Cobos et Christian Zacharias. Donc, c'est à l'automne 2021 que Renaud Capuçon est devenu son directeur artistique. Donc, c'est vraiment tout récent. Et donc, l'orchestre et son nouveau chef viennent pour un programme très intéressant avec du Forêt, du Saint-Georges, on va en dire quelques mots
quand
même.
Chevalier,
du Mozart et du Ravel. Alors, il ne faut pas oublier quand même que Renaud Capuçon, qui est natif de Chambéry, a été choisi comme violon solo du Gustav Mahler Jugendorchester par Claudio Abbado en 1997. Donc, il a une belle carrière comme musicien d'orchestre avant d'être le grand soliste que l'on connaît aujourd'hui. Donc,
Ce qui est nouveau, c'est la direction d'orchestre.
Ah oui, la direction d'orchestre, c'est relativement récent.
Donc, ça correspond à sa nomination en tant que directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Lausanne. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Hein.
Ah oui, absolument. Alors, dans le programme du concert qu'il va diriger, eh bien, il y a deux concertos pour violon, donc...
On va faire dans l'ordre, parce que ça commence normalement par Péléas et Mélissande, la suite d'orchestre de Gabriel Fauré.
Une œuvre
orchestrale pour commencer, que Renaud Capuçon va diriger à la tête de son orchestre. Oui. Et puis, on enchaîne avec un concerto pour violon de Joseph Bologne de Saint-Georges, c'est son nom complet, qu'on appelle
Chevalier de Saint-Georges, de Saint-Georges tout court.
Oui. Personnage extraordinaire.
Ah ben, extraordinaire, puisque c'est un homme de couleur qui est né en 1745 en Guadeloupe et qui est mort en 1799 à Paris. Donc c'est un homme qui a mené une carrière à la fois artistique et sportive exceptionnelle, puisqu'il était à la fois compositeur, escrimeur et musicien. Et donc, il a été l'un des plus célèbres personnages sous les règnes de Louis XV et Louis XVI. Hein. Donc, c'était extraordinaire. Puis, à l'époque, un homme de couleur...
Oui, bien entendu, mais comme quoi...
Et voilà.
Il était ami avec Olympe de Gouges.
Exactement.
On parlait d'une figure locale.
Exactement.
Et il a participé à la Révolution française. Bon, il a réussi à s'en tirer parce qu'à un moment, il a été mis en accusation, comme beaucoup à l'époque. Oui. Mais voilà, bon, il est mort en 1799, bien après, donc.
Oui.
Et il a composé beaucoup de pièces, et notamment pour violon, parce que c'était son instrument.
C'était son instrument, oui. Et donc, Renaud Capuçon jouera en soliste et dirigera en même temps son concerto pour violon numéro 9 en sol majeur, un opus 8 de Saint-Georges ou du Chevalier de Saint-Georges, ce qui est une nouveauté puisque pour ma part, je n'ai jamais entendu en concert de musique de Saint-Georges.
Alors moi j'en ai entendu avec l'orchestre baroque Les Passions de Montauban qui avait
joué du
Saint-Georges.
C'est vrai.
Absolument,
oui.
Alors, je ne me rappelle plus quelles œuvres c'était, mais c'était aussi des concertos
pour
suite concertante, mais bon, ce sont des concertos avec le violon évidemment en instrument vedette. Et à l'automne dernier, Renaud Capuçon et l'orchestre de chambre de Lausanne ont fait paraître un CD Vivaldi Saint-Georges. Donc ils ont associé Antonio Vivaldi et le Chevalier de Saint-Georges, CD paru sous le label Warner Classique, label historique de Renaud Capuçon, et on y trouve ce concerto pour violon numéro 9 en sol majeur opus 8 de Joseph Bologne de Saint-Georges, dont nous allons écouter maintenant le premier mouvement Allegro.
Thank you.
Le concerto pour violon numéro 9 en sol majeur opus 8 de Joseph Bologne de Saint-Georges, interprété par Renaud Capuçon, accompagné par l'orchestre de chambre de Lausanne. Un extrait de leur CD paru en septembre dernier sous le label Warner Classic. Et si vous avez bien écouté, eh bien ça ressemble à la musique que pouvait composer un autre très grand de cette époque. Et d'ailleurs, comment surnommait-on le musicien Joseph Bologne de Saint-Georges? On l'appelait le Mozart noir.
Oui, exactement.
Et donc, comme vous l'avez annoncé, Serge Chauzet, tout à l'heure, il y a deux autres œuvres au menu de ce concert, dont un second concerto pour violon, et celui-ci est de Mozart, justement.
Ah, voilà, c'est le numéro 3, donc l'un des plus beaux des cinq concertos de Mozart. Donc, il jouera. C'est très bien de faire ce voisinage entre Mozart et Saint-Georges. Donc. Et puis, la dernière œuvre au programme est une œuvre de Maurice Ravel. L'orchestration que Maurice Ravel a réalisée lui-même, de sa partition écrite initialement pour piano à quatre mains, qui est « Ma mère loi ». Il les a intitulées « Cinq pièces enfantines », donc des pièces sur les contes de ma mère loi, les contes que l'on raconte aux enfants. C'est une œuvre magique, hein, une œuvre d'une beauté extraordinaire. Et donc, on est très heureux d'entendre ça par l'orchestre.
La féerie ravelienne, je pense, peut-être la plus aboutie. Parce que, en plus, ce sont des contes pour enfants, donc des contes de fées.
Donc, c'est une belle conclusion de ce concert à laquelle nous aurons droit.
Très joli programme, original aussi, parce qu'il y a Saint-Georges. Hein, et ça, c'est pas si courant que ça. Je trouve très bien que ce soit Renaud Capuçon qui ait mis sa notoriété au service des œuvres de ce musicien du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle. Voici une des cinq pièces de Ma mère loi de Maurice Ravel, Les entretiens de la Belle et de la Bête. Et il s'agit d'une version de l'orchestre de chambre de Lausanne. Les entretiens de la Belle et de la Bête, pièce de Ma mère loi de Maurice Ravel dans une version de l'orchestre de chambre de Lausanne qui est donc en concert avec Renaud Capuçon ce vendredi 17 février à 20h à la Halle aux Grains pour le compte de la saison des grands interprètes. À nous maintenant Aurélien Bory pour les représentations de Daphné au Théâtre Garonne du 15 au 17 février. Celles de mercredi et jeudi commencent à 20h, celles de vendredi à 20h30. Vous en êtes le scénographe et le metteur en scène. Je précise qu'il s'agit d'une co-réalisation avec l'Opéra National du Capitole. Et je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur artistique de la Compagnie 111 depuis un peu plus de 20 ans maintenant, compagnie basée au Théâtre de la Digue à Toulouse. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de spectacles où se croisent entre autres les univers du cirque, du théâtre et de la danse. Vous avez également signé trois mises en scène d'opéra, dont Parsifal, on s'en rappelle, Parsifal de Richard Wagner à l'Opéra National du Capitole en 2020. Vous avez créé aussi une dizaine d'installations Pour résumer tout ça, je vais reprendre la formule de Laurent Pelly, l'ancien co-directeur du Théâtre de la Cité, qui vous définissait comme un poète de l'espace. Ce qui est certain, c'est que vous êtes un artiste et un créateur prolifique et protéiforme. Je pense que Daphné, cette nouvelle production au Théâtre Garonne, en est une illustration de plus. Une espèce d'objet scénique et musical non identifié, présenté tout de même comme un madrigal opéra pour 12 chanteurs et électronique. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais d'abord, je vais vous demander de nous raconter la genèse de ce projet que vous avez conçu avec le compositeur autrichien Wolfgang Mitterer et le chef de chœur Geoffroy Jourdain. Geoffroy Jourdain, je crois que c'est lui qui est à l'origine de tout ça.
Oui, tout à fait, c'est son idée. C'est l'idée de... Déjà, dans son ensemble, il était très familier de Schütz, en fait, hein, de Heinrich Schütz. Il a fait plusieurs enregistrements et beaucoup de concerts, beaucoup de programmes autour de cette musique. Et puis, donc, il se trouve que Schütz a écrit un opéra, donc Daphné, qui est reconnu comme le premier opéra allemand, mais dont la partition a été perdue. Donc il n'y a pas de trace de cet opéra. Et l'idée donc, de Geoffroy, c'est de dire bah, pourquoi pas demander à Wolfgang Mitterer d'écrire une Daphné, d'écrire une partition en s'inspirant, en se basant, en s'appuyant sur la musique de Schütz. Et ensuite Geoffroy est venu me trouver avec ce projet-là en disant bah, voilà, me raconter à la fois la naissance de l'opéra puis à la fois la perte hein, de cette partition. Et moi ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé pour deux raisons. Déjà je voulais continuer ce travail autour de l'art lyrique que j'ai commencé avec les opéras, et puis là c'était la première fois que c'était une création, c'est-à-dire on n'avait pas encore la partition, ça allait être une aventure avec Wolfgang Mitterer, puis j'allais découvrir, je n'ai découvert d'ailleurs la partition qu'en février, hein. Mitterer a fini de l'écrire en février, donc on découvre petit à petit, il n'y a pas de, comme les autres œuvres que j'ai mises en scène, d'enregistrement préalable évidemment, donc c'est une découverte, ça m'intéressait
c'est
beaucoup.
Février 2022, précisément.
Oui, février 2022, bien sûr.
Il y a quelques jours.
Bien sûr. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait de s'appuyer sur une musique ancienne, donc la musique de Schütz, pour faire une nouvelle musique. Et ce qui est drôle, c'est qu'enfin, il y a une coïncidence là-dedans, c'est qu'il y a une sorte de métamorphose donc de la musique, et métamorphose qui est le motif principal du mythe de Daphné. C'est la métamorphose en laurier. Donc cette démarche de création de Wolfgang et de Geoffroy correspondait bien à ce motif central, ce procédé qui est la métamorphose. Donc il y avait la métamorphose de la musique, la métamorphose de Daphné, et aussi donc, j'ai cherché au niveau de la mise en scène à faire une sorte de métamorphose de l'espace.
Alors, on va parler de cet aspect des métamorphoses. Alors, je rappelle pour ceux à qui le nom de Mitterer dirait tout de même quelque chose, c'est qu'une de ses œuvres a été donnée au Théâtre du Capitole, qui n'était pas encore Opéra National du Capitole à l'époque, en avril 2015, Massacre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de sa musique hein, c'est un pionnier un peu de la musique électroacoustique qui est également organiste. Hein.
Oui, il est organiste, il est très à l'aise avec la voix, il a lui-même chanté. Donc c'est un musicien extraordinaire qui connaît très très bien Schütz, hein, qui connaît très bien le madrigal. Donc c'est pour ça qu'il l'a appelé le madrigal opéra, parce que finalement il y a une sorte de polyphonie, hein. C'est un opéra polyphonique complètement, hein. Les rôles sont interprétés à plusieurs, les voix ne chantent quasiment jamais seules, enfin un petit peu, mais majoritairement en groupe. Je précise aussi que ces 12 voix qui ne sont pas doublées, qui sont uniques, toutes les partitions sont uniques, ce qui est très important parce qu'il y a un rapport à la fois à l'individu, à la voix seule et au groupe qui est très très intéressant, qui était un peu le sujet, on va dire, de comment, à partir d'un groupe, finalement, faire opéra. Il y avait vraiment cette idée-là. Et effectivement, il n'y a pas d'orchestre. Donc ça, c'était aussi assez original. Et Wolfgang Mitterer compose des bandes-sons électroniques. Je dirais que c'est des courts extraits électroniques que Geoffroy envoie avec des pédales. Donc c'est Geoffroy qui les joue, ce qui est très intéressant parce que ça continue à être joué. Ça a un certain rythme assez qui se mêle très très bien avec les voix. On n'est pas dépendant d'une bande qui défilerait. Non, c'est Geoffroy qui les joue, qui les envoie. Et qui sont, cette électronique, elle est faite de tout un tas de sons, mais beaucoup d'extraits musicaux. Comme si l'histoire, les 400 ans qui nous relient à cette musique avaient été un peu compactés. On reconnaît des bribes. C'est défile un petit peu le... par fragments, par écho, par éloignement, par contraction, beaucoup de choses de l'histoire de la musique. Donc ça, c'est assez intéressant et ça forme un peu cette électronique, une sorte d'orchestre fantôme.
On va parler du motif central donc, de ce spectacle, la métamorphose, et savoir comment c'est retranscrit en musique et sur scène par vos soins. Mais il y a l'idée, je pense aussi, en parlant de métamorphose, de la naissance de l'opéra. Schütz, Daphné, ce serait le premier opéra en langue allemande. Mmh. On passe d'un chœur à une voix solo. Mmh. Première métamorphose.
Absolument. C'est ça la naissance de l'opéra. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aussi Daphné, c'était le premier opéra italien. Donc ça, c'est intéressant. 97, musique de Péric, dont la partition a été perdue aussi. Un peu plus de 10 ans après, en 1608, il y a Galliano qui refait une Daphné, dont la partition existe. Tout ça, c'est le même livret. C'est le livret de Rinuccini, inspiré de d'Ovide. Et c'est ce livret que Opitz traduit en langue allemande. Mais c'est rigoureusement une traduction. Donc il y a cette idée, en s'inspirant de Ovide, faire un livret, Rinuccini, ensuite passer dans les mains d'Ovide, s'il y a une transmission comme ça, déjà un procédé de traduction qui est déjà une sorte de métamorphose, hein, qui est une transformation successive et qui finalement nous parvient. Donc on a travaillé avec Geoffroy autour de ce livret, essentiellement pour, on a quand même enlevé tout un acte. Je rappelle le contexte, cet opéra, il avait été créé à l'occasion des noces en Allemagne. Et donc, il y avait un acte central qui était vraiment une auto-congratulation de Cupidon et Vénus pendant tout un acte, certainement pour mettre l'amour comme ça en exergue, parce que c'était des noces. Ce qui est quand même étrange, hein, de raconter l'histoire de Daphné aujourd'hui pour des noces.
Oui,
je veux dire, c'est quand même étrange. On a enlevé cet acte-là qui nous paraissait pas nécessaire, et en nettoyant un petit peu le livret, mais en faisant très peu d'autres transformations, on a confié ça à Wolfgang. On s'est vu plusieurs fois, et Wolfgang nous a livré une partition. Moi, j'ai découvert cette partition. Finalement, j'ai commencé à la comprendre vraiment sur le plateau, en travaillant avec les chanteurs, en travaillant avec Geoffroy. C'est une musique de plateau. Là, ça m'a fait vraiment plaisir, parce qu'entre les musicales qu'on avait fait en studio et entre le plateau, il y a une énorme différence. Et donc, j'ai essayé de faire cette sorte de, sur le plateau, de polyphonie d'espace. Hein. Puisque c'est un opéra madrigal, un opéra polyphonique, alors il fallait faire une sorte de polyphonie d'espace. Et j'ai trouvé un dispositif scénographique pour cela.
Alors, on va en parler de ce dispositif, parce que ceux qui nous écoutent doivent se demander, mais à quoi ça ressemble? Comment c'est retranscrit sur scène? Qu'est-ce que raconte ce spectacle? Et quel rôle jouent les douze chanteurs? Il n'y a que les douze chanteurs, il n'y a pas de comédien, il n'y a pas de danseur.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'ils chantent, mais ils ne font pas que chanter.
Oui, alors ça, c'était aussi une question que Geoffroy m'avait posée mais quand il est venu me chercher. Est-ce que tu veux, toi, tu travailles avec des artistes de cirque, des danseurs, des acteurs, est-ce que tu veux ajouter aux chanteurs des... Et puis, quand il m'avait raconté le projet, moi, pour moi, c'était clair. J'ai dit non, écoute, il faut travailler qu'avec les chanteurs. Pour moi, c'est évident. Puisque c'est, on passe justement à la naissance de l'opéra, c'est faire à nouveau appel au théâtre, avoir recours au théâtre grec, hein, faire revenir le théâtre grec, les fondements du théâtre grec, et donc où ça passait par le chant et par le texte aussi, par le poème. Et donc il y avait cette incarnation, et donc il fallait que les interprètes fassent tout, y compris les accessoiristes. Donc je voulais vraiment que ces chanteurs et chanteuses s'occupent de l'ensemble, et que ce soit eux qu'on regarde, et qu'il n'y ait personne d'autre qu'eux. Donc ça, déjà, j'ai travaillé, c'était une donnée d'entrée. Et ensuite, j'ai pensé à un dispositif justement pour la métamorphose et pour la polyphonie, un dispositif bien connu au théâtre, puisqu'il s'agit de la scène tournante, la tournette. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est cette scène tournante, elle a été inventée pour changer les décors au théâtre. C'est pour ça qu'elle existe. C'est-à-dire qu'on faisait, on mettait un mur, derrière, on changeait le décor, et puis on faisait tourner le décor, et puis on découvrait un nouveau décor. Donc, c'est le moteur de la métamorphose des décors de l'espace.
On en est
toujours à ça. Et donc, c'était intéressant de prendre... Alors, moi, il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'autre décor que cette tournette, mais c'est le principe. C'est le principe qui était à l'œuvre, le principe de la métamorphose qu'on voit sur le plateau. Mais ça ne suffisait pas. Parce que, je disais, justement, pour le côté de polyphonique, il fallait qu'il y ait une sorte de partition d'espace que je puisse écrire. Et donc, j'ai eu l'idée de faire, finalement, des anneaux tournants concentriques. Il y en a 6, donc c'est assez important. Donc c'est une scène tournante à 6 révolutions, donc chaque anneau est indépendant, peut tourner dans un sens et dans l'autre, et indépendamment des autres ou avec les autres. Et donc j'ai pu comme ça composer une chorégraphie dans l'espace, un déplacement des chanteurs et des chanteuses. Ils se rapprochent, ils s'éloignent. J'ai pu composer comme ça une chorégraphie de l'espace. Et ça a été très intéressant de découvrir comment on écoutait du coup la musique différemment. C'est-à-dire que comme ils ont des voix qui sont à chaque fois des voix uniques dans la polyphonie, qu'ils interviennent, qu'ils s'arrêtent, eh bien on voit bien ces voix, on les distingue davantage par le fait de rendre leur position dans l'espace individuelle et non plus en groupe. Et non plus comme un chœur, etc. On sort complètement de l'idée de chœur. À ce moment-là, on est dans un groupe de personnes avec leur personnalité, avec leur... on les reconnaît bien, on reconnaît bien leur voix, on arrive à les distinguer. Et c'est ce qui m'a intéressé dans cette polyphonie.
Est-ce que la musique de Mitterrand n'a pas quelque chose elle-même de tournoyante, en tout cas cette composition-là, qui est peut-être renforcée par le dispositif que vous avez choisi?
Ah oui, complètement, complètement. Et même, je dirais que c'est un vertige. Parce qu'il prend la musique de Schütz, mais il en fait autre chose. Il y a des glissements comme ça, qui sont complètement vertigineux, qui sont très très intéressants. Intéressants pour la voix, mais intéressants à écouter. Moi, c'était vraiment pour moi une musique nouvelle, mais qui s'appuie sur quelque chose qu'on connaît vraiment très très bien. Moi, je ne connaissais pas trop la musique de Schütz, mais sans la connaître, on la connaît. C'est-à-dire le madrigal, la polyphonie, toute la musique baroque, c'est quelque chose
Elle est bien ancrée dans son époque. Hein.
Absolument. Et donc, on reconnaît... On voit, on apprécie, et à la fois, c'est autre chose, on ne l'a jamais entendu comme cela. Et il y a aussi les parties composées par Mitterrand, et on passe d'une musique à l'autre, mais sans aucun problème. Enfin, ça se marie très bien, et ça, c'est... Il y a quand même 400 ans d'écart, et donc ça, c'est vraiment étonnant.
Une métamorphose de plus. Je voudrais qu'on revienne au personnage de Daphné. Parce que qui est cette femme? C'est une femme qui veut vivre de façon indépendante, qui veut vivre de sa chasse, qui ne veut pas avoir d'enfant. Est-ce que ce n'est pas un peu le prototype de la femme moderne, d'une certaine manière?
Pas complètement. À la lecture d'aujourd'hui, c'est évident que c'est ça. Alors c'est chouette que déjà cette figure existe dans la mythologie. Hein, c'est une femme qui voulait être indépendante et ne dépendre de personne, et surtout pas d'un homme, ne voulait pas engendrer, et qui est la personne au mauvais endroit, au mauvais moment. Puisque lorsque Cupidon décoche une flèche dans le cœur d'Apollon pour se venger d'Apollon et de voir que Cupidon le domine, et que Apollon tombe amoureux, il tombe amoureux de la première qu'il voit. Et il se trouve être Daphné qui n'avait demandé rien à personne, et qui finalement va se trouver transformée en laurier, puisqu'elle appelle son père, le dieu fleuve, Péné, au secours, et Péné la transforme en laurier. Et donc c'est quand même un destin triste pour une femme qui voulait être chasseuse, qui était chasseuse, etc., qui était complètement dans cet univers-là, et de se retrouver en végétal, en arbre. Donc c'est triste, c'était vraiment triste. Elle n'a pas choisi ça, elle s'était très très éloignée de son dessein. Mais tel fut son destin, et donc ça c'est intéressant de la voir comme ça. Je pense qu'aujourd'hui on voit comme ça, évidemment, en 1627, quand Schütz et Opitz créent cet opéra, ils n'avaient pas du tout cette lecture.
Il n'y a pas ces codes-là, ça c'est certain. Voilà. Chasseuse qui chasse avec un arc, qui tire à l'arc, et il y a des arcs sur scène.
Oui.
Et cette scène, avec ses cercles concentriques, ça rappelle une cible tout de même.
Absolument. Il y avait cette idée aussi, dans ces anneaux tournants, c'est de faire de la scène une cible, un réceptacle. Parce que le motif de la cible, de l'arc et de la flèche, c'est récurrent. Déjà, les trois personnages principaux, Apollon, Cupidon et Daphné, ont ça en commun. Ils ont des arcs et des flèches. Ils sont à la fois prédateurs et à la fois proies. Et à chaque fois, les rôles sont inversés. Apollon est le prédateur de Python, puis de Daphné. Cupidon est la victime d'abord de Apollon, qui se moque de lui. Puis ensuite, il chasse Apollon. Et Daphné, c'est la même chose. Elle chasse un cerf et se trouve pourchassée par Apollon. Donc, j'ai essayé que tous les accessoires, donc les quelques accessoires du spectacle, qui sont, pour moi, qui servent d'attributs, pour qu'on reconnaisse les personnages. Parce que les personnages sont tous incarnés par plusieurs personnes, plusieurs voix et plusieurs personnes. Donc, il fallait un accessoire. Et tous les accessoires sont liés aux arcs et aux flèches. Donc on fait une couronne d'Apollon avec les milliers de flèches qui sont tombées et qu'il a décochées à Python. Il y a une sorte d'arc et de flèche joué pour le rôle de... Enfin, joué en termes de... joué d'enfant pour le rôle de Cupidon. Et puis un arc de chasse et de compétition pour Daphné.
Est-ce que cette scène qui tourne, cette scène cible, ces cercles concentriques, ça donne aussi une idée de cycle, de quelque chose de cyclique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le thème de l'éternel retour là-dedans, l'éternel retour du même, une histoire qui serait éternelle et qui se répète sans cesse?
Absolument. Mais je pense que tous les mythes sont, d'une certaine manière, obéissent à cette loi cyclique. Ils servent de modèle, donc ils reviennent. Et c'est pour ça qu'on continue à les raconter. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la mythologie grecque en particulier, dans ce mythe, c'est qu'il y a toujours une étrangeté. pourquoi elle se transforme en laurier? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il y a toujours une question un petit peu irrésolue. Et ça m'intéresse parce que cette question reste question. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas, bah oui, ça s'est passé comme ça. On se demande pourquoi. Et donc ça pointe autre chose. Et c'est notre lecture qui va être stimulée et qui va être... C'est notre lecture, en fait, qui est le sujet, comment on perçoit ça. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, alors on ne l'a pas du tout fait pour cette raison, mais on perçoit cette histoire différemment du fait que c'est un collectif qui la porte. C'est un collectif de femmes qui est derrière Daphné. Et ça, ça renforce un petit peu, justement, de remettre à l'honneur Daphné en la mettant à son juste endroit, je dirais. Et pas comme on a pu imaginer qu'elle devient un trophée, la couronne de laurier, et qu'elle est très très heureuse comme ça. Je pense pas. Je pense pas que...
C'est peut-être elle qui est au centre de la cible aussi, la femme de manière générale. Bon, on a vu en vous écoutant qu'effectivement c'est vertigineux, qu'il y a une espèce de vertige du sens hein, dans cette histoire et dans ce que vous en avez fait sur scène. Maintenant, il faut aller voir ce spectacle. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment Aurélia Bory d'avoir pris le temps de venir à Mélomanie entre deux répétitions de Daphné pour nous présenter ce Madrigal Opéra pour 12 chanteurs. Et électronique, la musique est signée Wolfgang Mitterer, les chanteurs des Cris de Paris sont dirigés par Geoffroy Jourdain, et la mise en scène et la scénographie sont l'œuvre d'Aurélien Bory. Très belle création à découvrir au Théâtre Garonne du 15 au 17 février. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.theatregaronne.com. D'autre part, je rappelle que l'Orchestre de Chambre de Lausanne et Renaud Capuçon sont en concert à la Lograin ce vendredi 17 février à 20h avec un programme d'œuvres de Fauré, Saint-Georges, Mozart et Ravel. À l'invitation de la saison des grands interprètes, vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. Je signale enfin que l'Orchestre National du Capitole donne un concert destiné au jeune public dimanche 19 février. C'est à 10h45 à la Lograin. La comédienne Maëlle Mieton y officie en tant que récitante et va lire un texte qu'elle a écrit à partir du célèbre conte russe Baba Yaga. Les musiques sont empruntées à des œuvres de Moussorgski et Stravinsky. Pour réserver et acheter vos places en ligne, il faut vous connecter au site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Jonathan Botello qui a réalisé ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence comme d'habitude. Merci à vous tous, chers auditeurs, de votre fidélité à cette émission. Excellente semaine musicale à tous.